concerne que le gouvernement ne signe pas l'accord du 22 mars dernier. Ce qui est en jeu à travers ce mouvement, c'est bien la place, le rôle de l'art et de la culture et l'accès de tout un chacun à celle-ci. Nous croyons que c'est en étant actif et solidaire au sein des groupements auxquels nous appartenons, plus que par des initiatives isolées, que nous pouvons faire entendre notre point de vue, mais aussi en utilisant les moyens de prendre la parole dont nous disposons, comme celui de cette émission, qui nous permet de mieux faire comprendre, au-delà des questions statutaires, en quoi l'art et la culture ont un rôle à tenir dans notre société. C'est pourquoi Résonance part tout au long de cette saison radiophonique sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques d'une part, mieux en parler et d'autre part, confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Psychothérapie de l'Ain pour évoquer la place de la culture au sein de cet établissement, l'importance d'une telle démarche pour les patients, pour les équipes, pour l'hôpital. Depuis 2009, le centre psychothérapie de l'Ain a accentué cette présence, a donné un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à travers la définition et la mise en œuvre d'un projet culturel pertinent, notamment en inscrivant celui-ci dans le cadre du programme national Culture et Santé. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Francis Vignaga. Vous êtes médecin-chef du dispositif de soins de réadaptation psychosociale du centre psychothérapeutique de l'Ain et référent notamment du dispositif Culture et Santé. Bonjour.
Bonjour.
J'ai aussi le plaisir d'accueillir Franceline Borel. Vous êtes chargée des projets culturels au centre psychothérapeutique de l'Ain.
Bonjour.
Bonjour. Et également deux artistes en résidence actuellement dans l'hôpital, deux membres du collectif Le Matrice, association Brune 95. Pardon. Et nous avons
Pascal.
Pascal Caparros.
C'est bien Prune 85.
C'est bien Prune 85, pardon. C'est important de être précis.
L'année est importante.
Voilà. Et également Benjamin Nide.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue aussi donc à vous tous. Alors, on va évoquer et dans mon introduction le programme national Culture et Santé, anciennement appelé Culture à l'hôpital. Et il s'est développé de manière importante dans chacune des régions sous l'impulsion du ministère de la Culture et de la Communication, des agences régionales de santé, des conseils régionaux pour certaines, avec pour objectif d'inciter les acteurs culturels et les responsables d'établissements de santé à construire ensemble une politique culturelle inscrite dans le projet d'établissement de chaque hôpital. Docteur Francis Vignaga, le centre psychothérapie de l'Ain participe à ce dispositif Culture et Santé depuis 2009, mais j'aimerais que peut-être dans un premier temps, nous puissions revenir un peu sur le contexte qui a présidé à cette évolution. La présence de la culture dans cet établissement est ancienne. Est-ce que vous pourriez nous faire part comment la culture peut-être s'est installée, a pénétré petit à petit le centre psychothérapie de l'Ain?
Oui, vaste question que la culture à l'hôpital psychiatrique.
Grande question, oui.
Donc, la culture a toujours occupé une place importante dans les institutions psychiatriques pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que l'hôpital psychiatrique a longtemps été confondu avec le lieu de l'hébergement. C'est la dimension asilaire qui existait dans nos hôpitaux, dont on s'est petit à petit dégagé. Mais dans cette dimension asilaire, l'hôpital était le lieu de la vie. Ce n'était pas l'hôpital, c'était l'asile, le lieu de la vie, de l'hébergement donc, au long cours. Et en lien avec cette vie, de ce lieu où on passait l'essentiel de son existence, se sont développées des activités visant à nourrir la vie. Et la culture, l'art, est un élément essentiel de la vie, patient ou pas patient. Après, une deuxième raison qui fait que la culture occupe une grande place à l'hôpital psychiatrique, c'est que le soin psychiatrique s'est beaucoup appuyé sur les médiations artistiques, culturelles, à la fois pour favoriser l'expression du monde intime, donc dans une dimension véritablement thérapeutique, mais aussi pour faciliter la relation, pour être un support relationnel dans une dimension thérapeutique, sociothérapique, dirait-on. Et voilà, cette dimension du soin reste présente à l'hôpital qui est devenu maintenant un lieu de soins et plus un lieu où l'on vit de façon durable, mais il y a aussi toujours cette fonction de lieu de vie et la dimension animation est aussi présente et culture et santé s'inscrit dans cette dimension-là d'animation d'un lieu où on est soigné, d'un lieu où l'on peut vivre un certain temps. Voilà.
Et donc du coup, avant 2009, les éléments qui étaient un petit peu proposés étaient de l'ordre des pratiques musicales, étaient de l'ordre de l'art plastique. Quels étaient un petit peu les éléments proposés, les disciplines proposées ?
Alors tout ça, ça s'inscrivait dans un projet qu'on appelait d'ergothérapie, oui. Où il y avait des activités occupationnelles multiples, des activités artistiques. Après, ça s'est transformé dans la fin des années 90. Et il y a une équipe d'activités dites d'expression qui s'appuyait sur les médiations culturelles pour artistiques pour développer des soins. Ça s'est développé également dans nos structures extérieures en association avec des artistes locaux. À côté de cette dimension du soin, il y a toujours eu des animations de l'hôpital. Il y avait la kermesse, il y avait la chorale,
oui, qu'on a beaucoup connue à une certaine époque parce qu'elle était dans tous les rassemblements chorales. Si je ne me trompe pas, c'était Sœur Marie-Claire.
Sœur Marie-Claire,
qui dirigeait cet ensemble.
Grande prêtresse des activités socioculturelles du CPA.
Tout à
donc
fait.
Ça, c'est l'histoire.
Absolument.
Et donc ça s'est transformé. Il y a eu de nouvelles manifestations qui se sont inventées. Et en particulier, une exposition qui s'est appelée Autrement dit, qui a été le début finalement de ce qui s'est ensuite structuré à travers culture et santé. Et ça, c'est Sylviane Carhuy qui est à l'origine de cette exposition qui avait pour idée de brasser les publics, à la fois donc les patients artistes, les artistes du dimanche, les artistes tout court. Et ça s'inscrivait véritablement dans le projet culture et santé. Et quand on a vu le cadre, quand on a s'est aperçu que ça rentrait complètement dans le cadre, on s'est dit, on va structurer dans cette dimension-là.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'institution, compte tenu déjà du passé, de l'historicité dont vous venez de nous faire part, finalement prend encore un petit peu plus compte tout ce qui s'y passait dans ce registre et finalement se dit, je m'implique encore davantage pour passer à un autre stade.
Voilà, donc là, ça reposait sur l'énergie, la volonté de quelques personnes.
C'est ça, oui.
On a essayé de donner une dimension un petit peu plus importante pour soutenir ces personnes qui avaient fait un travail très intéressant, reconnu. Et donc, culture et santé, ça permettait d'élargir ce travail, donner une dimension aussi plus importante au partenariat, parce que il faut aussi aller chercher des partenaires, il y a des financements et l'hôpital n'avait pas forcément un budget pour cette dimension-là. Donc là,
ça veut dire qu'un vrai projet, il a fallu travailler à ce que pouvait être un projet artistique pour l'établissement, en trouver son sens. C'est tout ce travail-là qui a commencé de se faire après, disons à ce moment-là en 2009.
Disons qu'après, l'idée c'était de faire diffuser une culture permettant d'intégrer la dimension culturelle à l'hôpital en essayant de penser l'hôpital pas seulement comme un lieu de soins, mais comme un lieu social où des pratiques culturelles, des pratiques artistiques pouvaient se dérouler. L'hôpital, c'est aussi de le penser comme un lieu ouvert. C'est aussi c'est pas seulement en réaction à l'histoire de l'asile,
bien sûr,
aussi par rapport à l'hôpital public ou privé, qui est un lieu de soins où la dimension technique prend toute la place et la dimension de l'humain se trouve souvent rabougrie. Donc la culture, c'est quand même une dimension essentiellement rattachée à l'humain. Et donc faire venir la culture à l'hôpital, c'était ramener aussi de l'humanité, faire vivre des espaces intermédiaires, interstitiels, comme on pouvait dire dans la psychothérapie institutionnelle, amener une forme d'ambiance à l'hôpital qui venait lutter contre l'ambiance hygiénique, technocratique, technique, qui prend de plus en plus de place. Un équilibre, voilà. Et donc, effectivement, ça s'est structuré avec culture et santé, donc cela représente un des objectifs importants.
Important, effectivement. Donc là, on prend bien la mesure, en tout cas, par rapport à ce qui se passait avant, de cette nouvelle dimension qui arrive, de ces volontés aussi, et tout ce que vous venez de dire est extrêmement important, changer le regard que l'on pouvait avoir sur l'institution hospitalière en tant que telle de ce qu'était le CPA, comme non pas un lieu à part, mais un lieu qui participe également à la vie de la cité, et notamment à l'expression aussi artistique, au travers d'expressions artistiques, est en lien aussi avec cette cité. Jusqu'à un moment donné aussi, il y a une commission qui se met en place pour réfléchir aussi à toutes ces questions. Et puis, certainement aussi la nécessité de se dire, eh bien, il faut aussi quelqu'un, aussi peut-être en permanence, pour pouvoir travailler autour de ces questions.
Oui. Alors déjà, donc, ça a été repris par notre direction, qui a, qui a soutenu le projet. Moi, en tant que médecin, je me suis trouvé impliqué dans cette histoire en tant que responsable de l'équipe qui s'occupait des...
L'artistique, c'était déjà quelque chose, il y a tout ce que vous en avez dépeint de votre point de vue de médecin, mais en même temps, vous pratiquez une pratique artistique, et quelle est cette fibre qui vous a conduit aussi à vous engager dans cet élément aussi artistique, finalement?
Non, c'est étrange, moi je n'ai pas beaucoup de lien avec la dimension artistique et culturelle, et c'est peut-être aussi pour ça que je lui accorde une grande importance, parce que je trouve que... Voilà, je suis un petit peu un handicapé dans cette dimension-là, et ça me fait plaisir de rencontrer des personnes qui ont ces compétences-là pour développer leur créativité, créer des choses, etc. Mais moi, je suis intéressé, et voilà, et ça m'intéresse de voir des artistes venir à l'hôpital, et je me nourris de ça parce que finalement, si j'ai pas tellement de temps, et j'y accorde peut-être pas suffisamment de temps, à cette préoccupation. Mais je suis un peu représentatif des médecins. On s'intéresse à la culture, mais on n'a pas forcément le temps de s'y impliquer directement.
Donc, une commission se met en place, et puis, en la présence de Franceline Borel, à un moment donné, on décide au niveau de l'administration, au niveau de l'importance du projet qu'on veut lui donner, qu'effectivement, il faut pouvoir aussi mobiliser à l'intérieur et d'avoir quelqu'un qui vient aussi de la culture, en tout cas, qui a ses résonances là aussi également, et qui puisse accompagner l'équipe. Voilà, comment s'est fait un peu ce choix de peu d'hôpitaux, enfin maintenant c'est quelque chose qu'on commence à retrouver dans certains grands hôpitaux, mais de coordinateurs culturels ou de chargés de projets culturels, c'est encore une profession, je dirais, encore récente, on ne le trouve pas dans tous les hôpitaux. Comment s'est fait un petit peu peut-être ce choix pour le centre psychothérapeutique de l'Ain?
Ben, le choix, c'est imposé, je dirais, à nous, mais il a fallu aussi en convaincre notre direction. On s'est aperçu que la dimension du bénévolat allait vite s'épuiser et qu'il fallait professionnaliser cette dimension-là. Toute la dimension communication, on n'était pas du tout suffisamment performant, compétent, etc. La dimension culturelle, c'est aussi un intérêt. L'art, c'est aussi quelque chose qui permet la rencontre. Donc, quelque chose qui permet de nouer des partenariats, pas simplement avec le milieu artistique, mais de s'ouvrir à tout un tas d'autres partenaires. Et donc, ça, l'arrivée de quelqu'un comme Franceline Borel, comme attaché culturel, je dirais, a non seulement pour intérêt de soutenir le projet culturel, mais de développer toute une dimension communication autour de notre institution, qui reste assez stigmatisée dans son image. Et donc là, ça permet de l'ouvrir avec la médiation culturelle.
Alors, Franceline Borel, on arrive au moment où, bien sûr, comme vient de le dire le docteur Francis Vignaga, on met en place, on restructure, on donne de nouvelles dimensions, et puis on crée ce poste de chargé de projet culturel. Comment, quand vous êtes arrivé ici, finalement, vous avez perçu peut-être ce choix aussi de pouvoir postuler à ce type de poste, c'est quelque chose déjà qui vous intéressait dans votre parcours précédemment, ou ces questions-là plus particulièrement, c'était quelque chose qui vous interpellait?
Oui, alors en fait, moi j'ai un parcours essentiellement culturel, effectivement. J'ai travaillé pendant 6 ans à l'association La Maison du Théâtre, qui est à Jasseron, qui avait pour mission déjà d'aller dans des territoires isolés de l'offre culturelle. Donc, je pense que j'ai été
fortement armée
et de fait intéressée par ce qui se passe aussi ici à l'hôpital, au centre psychothérapique de l'Ain, puisqu'ici, c'est un peu la même mission, finalement. On est dans un territoire, entre guillemets, isolé de l'offre culturelle. Et le but, c'est aussi de faire venir des artistes dans ce territoire-là et de décloisonner ce territoire. Donc, venant de la Maison du Théâtre, je pense que je ne pouvais être qu'intéressée par le projet développé ici. Et puis, avec la Maison du Théâtre, lorsque j'y travaillais, on était partenaire du CPA sur les projets culture et santé, ce qui se faisait déjà à l'époque. Donc, j'ai pu rencontrer la commission culture, rencontrer l'institution, voir un petit peu comment tout ce petit monde-là fonctionnait et comment les artistes pouvaient proposer des projets. Et petit à petit, j'ai suivi aussi les réflexions de la commission culturelle, alors d'un point de vue du partenaire. Mm-hmm. Mais en tout cas, je les ai suivies et j'ai effectivement vu l'évolution et cette envie petit à petit d'amener de la professionnalité, si mm-hmm. on peut dire ça comme ça, dans une structure hospitalière.
Étape importante.
Voilà, étape importante. Du coup, moi aussi, j'étais dans une phase où j'avais envie d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Et le projet du CPA m'a évidemment sauté aux yeux et m'a enthousiasmé évidemment. Et du
oui, parce que c'est un vrai pari. Ouais. Vous le souleviez tout à l'heure, docteur Vignaga. Je dirais que ce soit pour les collectivités ou pour certaines partenaires culturels, il y avait difficulté encore à trouver au préalable, à comment se rencontrer, à comment incorporer les choses. Donc c'était et puis les représentations qu'on pouvait avoir tout simplement de l'hôpital faisaient que c'est quelque chose de pas simple à manier, en tout cas sur différents points de vue.
Non, c'est sûr, c'est pas simple. Alors c'est à la fois faire entrer le monde culturel dans le monde hospitalier, puis c'est aussi à la fois faire entrer le monde hospitalier dans le monde culturel. Donc c'est sans arrêt un jeu d'aller-retour finalement. Culture et santé, c'est vraiment ça, c'est de l'aller-retour, c'est de la porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais entre nos intérieurs et nos extérieurs, entre l'intérieur de l'hôpital et l'extérieur de l'hôpital. Voilà. Et c'est, finalement, c'est ça qui n'est pas simple, mais c'est aussi ça qui est le plus passionnant dans toute cette aventure, finalement.
Donc, du coup, là, on est inscrit. Ça veut dire que là, on évoquait brièvement tout à l'heure les partenaires institutionnels, mais ça veut dire s'inscrire dans le programme culture et santé aujourd'hui. Ça veut dire que la région, ça veut dire que la DRAC, ça veut dire que le département. Quels sont les autres partenaires? L'institution, bien évidemment,
en premier lieu. Ouais. Ouais. Alors, évidemment, alors, l'Agence régionale de santé, la DRAC aux affaires culturelles de la région Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil général de l'Ain, la ville de Bourg-en-Bresse. Depuis cette année, on a aussi la chance d'avoir l'aide de la Fondation de France aussi, par exemple.
Bien sûr, qui est très attentionnée à tous ces projets.
Voilà, tout à fait. Donc, on a beaucoup, beaucoup de partenaires qui sont aussi, dynamiques pour que nous aussi, on se pose les bonnes questions et pour qu'on aille de l'avant et qui sont très intéressés par tout ce projet-là, Culture et Santé, développé par le CPA. Donc, on a vraiment des très, très bons encouragements de la part de tous les partenaires. On espère que ça va durer, mais je pense que ça va être le cas.
Quand je dis à mon entourage que je suis dans un hôpital psychiatrique, au tout début, je sais pas,
c'est chelou.
Et t'es folle et tout, puis qu'est-ce que tu fous chez les fous et tout, t'as pas besoin d'être là, pour moi, c'est les fous qui sont là-bas et tout. C'est touché son image de fou.
Ouais. Quand on parle d'hôpital psychiatrique, les gens ils pensent que c'est des fous. Je pense que les gens ils ont tout de suite les clichés.
Ouais, comme
les personnes qui ont vraiment une pathologie, quoi, qui ont vraiment une maladie psychologique, ça engendre après un mal-être, je pense, chez chaque personne.
C'est le cadre, c'est ça.
leur phrase. Le cadre. On a tous le même cadre, un même cadre pour tout le monde, mais il y a un cadre aussi individuel pour chaque personne et chaque qualité. C'est qu'on est ici et on a le droit de trouver du réconfort dans le monde. Il faut quand même qu'il y ait des relations, parce qu'en étant ici, on est déjà coupé du monde. Si on n'a pas de relations au sein de l'hôpital, bah, on n'a plus de vie sociale.
Bah, déjà, quand t'arrives ici, voilà, tu sais pas comment ça va se passer. Ça fait peur la première fois qu'on dit ça, quand on dit. Je pense que les choses se passent avec ceux qui ont été hospitalisés ici, quand le médecin il dit ouais, on va te hospitaliser et tout. Tu sais que tu vas être dans un service ici.
Puis même à la famille aussi, c'est pas possible à dire.
Les gens ils ont un comportement. Ils ont un comportement différent avec nous du moment où on leur dit que.
Alors comment tu vas, machin?
Les gens, ça les interroge, quoi. Et...
C'est gênant quand même d'en parler.
Enfin, ouais, je...
Après l'image que j'ai vu mon médecin et qu'il m'a dit bah, tu vas pas tenter une hospitalisation, j'avais pensé qu'il allait opérer le cerveau en fait. Il allait faire changer.
Et on ne fait pas opérer le cerveau.
Non.
Peut-être les gens, on a des plus jeunes.
Non, il est là. Non, il est trop bien.
En vrai, c'est rare qu'on ait comme ça.
Ouais.
Ça, ça fait du bien.
Sur Tropic FM et dans Résonance, une émission réalisée au centre psychothérapeutique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Peut-être Benjamin Amnier, dont on peut peut-être dire un petit peu quelques mots sur ce que nous venons d'entendre, ce qui fait état de, on va y venir tout à l'heure plus précisément sur le travail de résidence que vous avez complicé ici, dans le cadre de toute la saison, enfin d'une partie de la saison là, de, culturelle de, du centre psychothérapeutique de l'Ain, d'un projet aussi donc d'histoire de métamorphose. Et là, on vient d'entendre tout un travail de conversation à la volée.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est un échange entre plusieurs jeunes filles de l'USADO. Je crois même que cet échange a eu lieu presque le premier jour en
le
fait,
premier jour.
Les a rencontrés. Donc, on est arrivé, en fait, ce qui est un peu déroutant, notamment pour des ados, c'est qu'on arrive en n'ayant rien de prévu. Mmh. Et ça, je pense que dans le cadre d'une activité artistique, c'est assez déstabilisant pour les jeunes. Et en même temps, c'est ce qui permet de faire sortir des choses qui sont, qui ont une certaine fragilité, une spontanéité. Et du coup, c'est là-dessus que le travail s'est axé, quoi. C'est-à-dire qu'on a, il y a eu cette discussion qui a été captée, et puis petit à petit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, hein? On pourrait la mettre en musique. Alors comment on la met en musique? Bah, du coup, on va aller enregistrer des choses, parce que donc les à peu près 95% de ce qui est joué là, à part un ou deux synthétiseurs qui sont des graines de l'ordinateur, ce sont que même la caisse claire, par exemple, ouais. C'est des instruments que les jeunes enregistrent. Dans la salle de musique, on capte ça, on la met dans des machines, ouais. et c'est vrai qu'assez rapidement, ils se rendent compte qu'ils arrivent à avoir les mêmes outils de production, qui sont peut-être des références qu'ils ont à côté, et du coup, au travers de ça, chercher un peu une identité artistique.
Avec toutes ces choses voilà. Qu'on fait.
Voilà, c'est ça, et arriver à structurer, à composer un morceau, à arranger des choses, à manipuler de la matière sonore pour la mettre à l'envers, à l'endroit, voilà, utiliser en fait différents procédés qui permettent de, enfin voilà, d'avoir un vrai propos artistique qui émane des participants eux-mêmes en fait.
Alors peut-être Francine Morel, on peut évoquer la thématique 2014 justement de ce qui se passe quand on entend déjà tout le propos par Benjamin Nid. Il y a toute une dimension qui est travaillée cette année, même si déjà auparavant, déjà l'année dernière, il y avait déjà des tas de propositions artistiques qui allaient dans ce sens. Mais on sent bien que finalement, s'essaye de se bâtir un espace pour voir comment l'autre, aussi bien l'extérieur et l'intérieur, se nourrissent finalement, et les propositions émanent de ça. Et je pense notamment au tricot street art aussi, qui a eu lieu à un autre moment donné, mais qui était là également dans cet état d'esprit.
Oui, alors c'est vrai que cette année 2014, on a voulu travailler autour de la question de la transformation des espaces.
Voilà, ça c'est important.
Voilà, puisque c'est vrai que sur le site même du CPA, depuis quelques années, il y a beaucoup de transformations d'espaces, que ce soit architecturaux, ou espaces de soins. Et on a trouvé ça intéressant de poser ça sur une année et de faire venir des artistes et d'organiser des projets qui rassemblent autour de cette question-là de métamorphose des lieux, transformation des espaces. Donc c'est pour ça que notre saison 2014 s'intitule « Topographie utopique ». Et c'est vrai qu'en 2014, on a eu, donc on a encore, puisque ce n'est pas fini, on a plusieurs projets, dont un qui s'appelle le Tricot Street Art, donc, qui a été initié depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant, par Agnès Bernard, qui est art-thérapeute, et qui petit à petit s'est rendu compte que tricoter avec les gens, et ben, on parlait d'autre chose que du tricot. On se rassemblait pour travailler ensemble manuellement, et puis on créait quelque chose sans s'en rendre compte. Et que du coup, il y avait du lien qui se faisait entre les personnes, de fait et naturellement. Et ce projet-là donc, a été intégré dans le dispositif Culture et Santé, sachant que cette année, la particularité du tricot street art, c'était de sortir des murs, puisque jusqu'à présent, on tricotait pour les arbres du parc du CPA.
Et là, donc, du coup, on investit ailleurs.
Voilà, et là, on investit ailleurs. Et il se trouve que la ville de Bourg-en-Bresse a organisé une quinzaine culturelle au mois de mai qui s'est appelée Métamorphose. Métamorphose,
donc correspondance complète.
Et, voilà, correspondance complète. Et on s'est intégré dans cet événement de la ville. Donc, on a métamorphosé le centre-ville de Bourg avec
l'aide. Et on peut encore les voir. Hein,
voilà,
en ce moment,
on peut les voir encore jusqu'au 27 juin. Alors, malheureusement, on s'en est fait voler pas mal, je dirais presque plus de la moitié. Mais bon, c'est bon signe. Hein,
c'est bon signe.
Chacun se réapproprie l'art et surtout le street art, hein, de toute façon. Et donc, on a eu l'aide de nombreux partenaires dans le cadre de ce projet. On était une dizaine de partenaires au total. Alors, je ne vais pas tous les citer, MJC Bourg, Centre social de la Ressouze, Résidence Émile Pélican, le Réseau de lecture publique de Bourg, le foyer d'accueil médicalisé de Beaupont, l'Association des retraités du CPA. Enfin, voilà, il y a eu plein de
multiplicité de partenaires.
On a, voilà, c'est ce qu'on appelait des brigades de tricot. Donc, qui ont constitué leur propre brigade dans leur lieu et avec leurs adhérents, les membres qui suivent ces structures. Donc au total, on était une centaine de tricoteuses et tricoteurs, voilà, et tricoteurs qui depuis 8 mois se sont rassemblés, se sont rencontrés, okay, puisque beaucoup de gens sont venus nous voir lors de notre brigade du CPA un vendredi par mois ici.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus tricoter avec nous ici. Et ça a donné lieu donc au mois de mai au street art coloré rue Notre-Dame, place de la Mairie et avenue Alsace-Lorraine. Voilà. Donc c'est vrai que l'importance du partenariat pour nous, elle est avec les partenaires même des structures culturelles, sociales, médico-sociales du territoire burgien et même plus largement du territoire départemental. Et sans eux, on ne peut pas faire ces allers-retours-là.
Est-ce qu'on peut dire que le soin oblige le partenariat finalement?
Oui, et même et de toute façon, je pense que l'art et la culture obligent le partenariat. On est même en dehors du soin, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que les gens se rencontrent, il faut aussi que les structures proposent ces temps de rencontre. Mmh. Voilà. Et donc, juste le CPA ne peut pas proposer ces temps de rencontre, malheureusement, parce qu'il y a aussi toutes ces histoires de stigmatisation.
Mmh.
et de cloisonnement. Donc, on est là aussi pour décloisonner, déstigmatiser, mais on a aussi l'aide, on a besoin vraiment de l'aide des partenaires, que ce soit structure culturelle, sociale, médicale.
Et je pense quand on entend Benjamin Nid aussi tout à l'heure, c'est un aller-retour parce que quelque part, vous le disiez tout à l'heure même en prenant ce poste, finalement en ayant toute expérience au travers de la maison du théâtre, c'est aussi ces ouvertures, ces besoins aussi de chercher ailleurs ou quelque part aussi de faire avancer aussi ce mode de réflexion dans sa démarche artistique qui fait qu'à un moment donné aussi, voilà, c'est pas le lieu de soins, c'est un lieu de théâtre, peu importe, mais c'est la démarche artistique finalement, et la démarche humaine finalement qu'elle a.
Oui, ça rejoint aussi ce que disait le docteur Vignaga tout à l'heure, on est sur l'humain avant tout, et d'autant plus dans des projets culture et santé, et l'humain c'est la rencontre finalement, la rencontre de soi à soi, et la rencontre de soi avec les autres, donc du coup on est complètement dans ces questions-là dans les projets.
Alors donc, pour en venir aussi à l'histoire de Métamorphose, qui est le deuxième projet aussi qui s'inscrit dans la dynamique que vous dépeignez, là, c'est une rencontre aussi, on a deux représentants, mais un collectif. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui avec nous, le Matrice, et qui, donc, si on veut un peu donner des lignes de lecture aussi, le collectif interdisciplinaire, donc ce collectif-là est lyonnais, réunit des plasticiens, des musiciens, peut-être que Pascal, justement, Caparros, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état d'esprit finalement qui a réuni toutes ces personnes. Là aussi, on parlait de l'humain justement à l'intérieur autour de ces projets, mais il est fort aussi cette dimension-là de rencontre à travers l'art et la réunion de toutes ces personnes.
C'est une dimension très très forte au sein du collectif, effectivement. Ce collectif artistique vient de très loin, donc on va peut-être pas s'attarder à remonter à plus de 10 ans en arrière. Mais il a toute une histoire. Mais en tout cas, il s'est fondamentalement... on s'est rencontrés effectivement sur ces notions-là il y a 10 ans maintenant, à partir d'un collectif qui était vraiment très large. Hein. Il y avait plus de 10 personnes, voire 15 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 4, je dirais... en termes de noyau dur, donc deux musiciens et deux imagistes. Mais c'est un collectif ouvert qui, suivant les projets, peut s'élargir à plein de personnes, quoi, et plein d'artistes différents. Donc effectivement, Matrice, c'est un sigle, ça a son importance.
Module aléatoire de traitement de recyclage d'informations, de choses et trois points de suspension qui me semblent importants.
Et c'est effectivement dans ces trois petits points de suspension que réside tous les fondements de notre travail. Hein. Nous avons un principe de travail qu'on appelle l'art en cours. Ce principe, en fait, pour synthétiser, pour faire un peu d'humour, je dirais que c'est de l'anti-romantisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour tuer le père ou tuer ce qui s'est fait il y a 30 ans pour recommencer autre chose, bien au contraire. Et qu'on est là pour... on est dans une continuation complète et constante d'une méthodologie et d'une pensée de travail, quoi. La problématique vraiment qu'on s'est posée, c'est comment décloisonner, comment démystifier l'art, quoi. À la base, ça vient vraiment de là. Et du coup, pour être très pragmatique, on arrive, quel que soit le lieu, quel que soit le public, à ouvrir des ateliers.
Oui, ça passe par ce terrain de pratique du faire tout de suite.
Ça passe par le terrain de pratique de faire, oui. Tout à fait.
Le oser faire, libérer ce oser faire, le donner envie de faire.
Et aussi par la possibilité de se tromper, par la possibilité de l'erreur.
De fait.
Qu'on appelle en art l'artefact, tout simplement, et voir l'utilisation de ces artefacts. Donc ça s'ouvre à tout le monde. Voilà.
Dans cet hôpital, nous n'avons pas beaucoup de moments de répit. Ce paysage enneigé, on peut oublier notre malheur, ce qu'on ressent. Nous avons fait des batailles de boules de neige. Ces moments étaient inoubliables. C'était un moment de répit pour nos sentiments et notre cerveau. Quand il fait beau, on s'assoit dehors sur une serviette au soleil. On se met du vernis, on se fait des adhébats. On oublie encore une fois les fracas que nous avons au quotidien. Il y a même une canne qui s'y était installée. On peut dire que ce paysage est vraiment très beau. Tous les êtres vivants ont s'y installer. On peut dire que ce paysage est vraiment très beau.
Vous êtes sur Tropic FM et dans Résonance, une émission spéciale réalisée au centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Nouvel extrait du travail mené par le collectif Le Matrice, ici donc au centre psychothérapie de l'Ain, et Benjamin Nid. Alors là encore une autre approche, un autre travail.
C'est des adolescentes en fait qui ont en quelque sorte listé tous les moments agréables qu'elles avaient passés ici en fait. Et on retrouve tous les moments de complicité qui nous renvoient à l'adolescence. Voilà, donc c'est des jeunes femmes en devenir qui prennent le temps de se mettre du vernis à ongles, de se faire des atébas, des fraises dans les cheveux, de partager un peu tout ce quotidien-là, quoi, d'adolescente, j'ai envie de dire normal, entre guillemets, mais c'est aussi ça. Et du coup, la mission un peu... sans vouloir la déclencher directement, c'est aussi de faire prendre conscience que c'est des adolescents comme les autres, quoi, qui ont besoin de grandir, d'évoluer, d'explorer une féminité, de passer par toutes ces étapes en fait de la construction. Et puis en fait elles l'ont fait assez simplement, et encore une fois, c'est une composition de Sébastien Eglem, donc l'autre musicien du...
Donc là il y a eu rencontre, il y a eu...
Elles avaient carrément écrit un texte.
Là c'est une écriture.
Voilà, c'est ça. D'accord. Elles sont allées se balader, je crois, et elles ont repéré un peu tous les endroits où il s'était passé
quelque chose pour elles.
C'est ça. Et du coup, ensuite, un peu le même processus où on prend les instruments de musique, on enregistre, on sample, on retravaille le son, on organise. Et
tout ça avec elle aussi, sur ce terrain-là.
Exactement, tout à fait.
Alors comment, du coup, On vient d'entendre deux extraits. On voit qu'il y a une multiplicité de rencontres, une multiplicité aussi d'emmener finalement ces personnes dans un registre qui part aussi bien de leur expression artistique, mais aussi qui font pénétrer votre univers à vous aussi également. Comment s'articule un peu dans le temps finalement ce projet? Il a commencé quand pour vous justement cette présence ici au centre psychothérapie de l'Ain?
Il y a un mois à peu près, oui.
Voilà. Et donc vous êtes là dans l'établissement jusqu'à quand?
Jusqu'au 5 décembre.
Voilà, donc on voit que c'est une très grande présence, une vraie résidence.
C'est une vraie résidence avec trois temps forts.
Ouais.
Hein, là, nous sommes au milieu du deuxième temps fort, puisqu'il y a eu la présence de Benoît Varec et Sébastien Iglem à la tannerie pendant 3 jours, et avec Benjamin, nous sommes arrivés.
Alors, Sébastien Iglem, musicien, et puis Benoît Varec, votre compère imagiste aussi.
Mon compère imagiste, tout à fait. Et donc là, on est pile au centre du deuxième temps fort de résidence, avec un vernissage jeudi soir, à 18h. Voilà.
Et peut-être dans les étapes du travail, où on a bien compris que même dans le titre, tout est en devenir et qu'on ne le sait pas ce qu'il sera déjà, et qu'il n'est pas programmé en tant que tel.
Nous-mêmes, nous ne le savons pas.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a après, je dirais, des étapes pour vous, que vous vous êtes fixées dans toutes ces rencontres, j'imagine, que vous êtes en train de recueillir, qui se font, qui s'enchevêtrent peut-être, qui donnent naissance à d'autres envies?
Oui, il y a quand même un petit cahier des charges. Donc, on s'est posé effectivement par rapport à ces trois temps forts, trois thématiques un peu précises, mais très ouvertes, que nous expliquons aux personnes avec qui nous travaillons. La première étape, donc, était plus basée sur le présent, sur la première image que vous avez eue la fois où vous êtes venu au CPA. Là, sur cette deuxième étape, nous travaillons plus sur l'imaginaire et comment est-ce qu'on peut imaginer l'hôpital dans le devenir, que ce soit d'une manière très objective ou d'une manière très utopique. Et la troisième étape sera sûrement plus axée sur le passé. Voilà. Et pour finaliser au mois de décembre.
Ça veut dire, Franceline Borel, les modalités, je dirais, il y a plusieurs rendez-vous, on l'a compris, comme ça, de mise en visibilité de ce travail, mais il y a un moment donné où on va revisiter un petit peu toute cette histoire de métamorphose qui aura eu lieu ici.
Oui, alors tout à fait. En fait, les artistes, vous l'avez dit, sont là sur une résidence de 7 mois avec différents temps forts, comme Pascal vient de le dire. Pour ces temps forts, ils construisent, et pendant ces temps forts et après ces temps forts, ils construisent l'Intracube, donc, qui est une installation audiovisuelle qui est présente d'ores et déjà dans la chapelle du CPA et qui est visitable par tout le monde. En fait, tout le monde peut venir visiter cet Intracube en cours de chantier. Sur rendez-vous, en fait, il suffit de m'appeler. Et, ou de m'envoyer un mail et on convient d'un rendez-vous, on peut venir en groupe ou tout seul. Hein. L'idée, c'est de proposer cette présence artistique sur plusieurs mois et de voir un petit peu l'évolution de toutes ces rencontres que les artistes font avec les participants ou avec les habitants de l'hôpital ou les salariés ou les habitants du territoire.
On vit en direct un petit peu tout ce qui se passe dans ces moments de rencontre et qu'est-ce qui en sort au niveau d'expression.
Tout à fait, on vit aussi le processus de création en direct, c'est-à-dire qu'on suit vraiment du début à la fin l'évolution de ce projet-là. Donc, en septembre, début octobre, les artistes vont revenir sur l'hôpital pour une semaine de rencontres et travail avec des participants. Donc là, a priori, on sera plus sur un public scolaire puisqu'on va monter un partenariat avec le lycée Clinet et l'IME Le Pré-Lyon de Perona là-dessus. Mais ça pourrait aussi être ouvert à tout un chacun, évidemment. Et au mois de décembre, dernière résidence des artistes, puis donc une soirée pour clôturer tout ce projet-là qui va être une soirée de projection audiovisuelle et art numérique sur la façade de la chapelle du CPA. Donc, un peu sur le même principe que la fête des Lumières à Lyon, au CPA de Bourg-en-Bresse. Voilà.
Ça, c'est formidable, ça lui donne des dimensions. Peut-être aussi, docteur Vignaga, quand on entend aussi le récit, ce qui s'y passe aussi, on évoquait peut-être les représentations de l'hôpital. Est-ce que là, tout ça concourt véritablement à lui donner un autre visage, en tout cas à commencer de le faire percevoir autrement?
En tout cas, ça peut amener à s'interroger sur les visages qu'on souhaite donner à l'hôpital
aussi.
Et comment il est vu à l'extérieur. En particulier, là, ça me fait penser à la ville de Bourg, qui a découvert, grâce peut-être à Culture et Santé, que le CPA était sur son territoire. Et après, comment ça s'agence, comment l'hôpital s'articule à la cité. C'est des choses qui, ce partenariat-là, il n'est pas forcément réfléchi. Donc à travers la réflexion, je dirais, sur la dimension artistique, ça amène d'autres réflexions sur l'agencement urbanistique, je dirais, de l'hôpital, mais de l'hôpital dans la cité. En tout cas, j'espère que ça pourrait aboutir à des choses comme ça.
Oui, là, il y a des choses aussi importantes. Vous disiez comment on s'aperçoit finalement qu'on est là, quoi, hein, quelque part dans le paysage urbain, en tout cas de l'agglomération. Vous sentiez peut-être que voilà, il y avait vraiment une image cloisonnante, en tout cas une perception cloisonnante.
Ben, c'est clair. À Bourg, il y avait deux hôpitaux psychiatriques. Il y avait Sainte-Madeleine qui était cachée derrière ces grands bâtiments dont personne ne connaissait le magnifique parc qu'il y avait à l'intérieur.
C'est vrai.
Qu'on va peut-être découvrir prochainement. Et puis, il y avait Saint-Georges qui était à l'extérieur de la cité, qui était relativement loin et qui a été rattrapé par la cité, qui est maintenant aux portes de la ville. Donc, il faut peut-être réfléchir aussi à ce nouvel agencement. L'hôpital, ce n'est pas le lieu de l'exclusion, c'est un lieu de concentration des soins et qu'il y a des circulations à imaginer.
Si ma vie part en fumée, j'aurais voulu tirer une latte. J'ai envie d'en profiter, mais j'évite de boire de l'eau plate. Entendu tous les ragots, écouter toutes les infos. Je me suis servi de mes mots pour éviter de finir barjo. Qui détient la solution? Perso, je vois que des problèmes. C'est un sacré bouffon, celui qui est né à Bethléem. Comme si la vie était une blague que Carambar inventait. Comme ces rappeurs qui ont le swag, catégorie variété. Je peux pas trouver ça normal, je me dois de constater que me bac rentre dans les annales, donc on finit en CAP. Monsieur, faites un choix pour votre avenir professionnel. Donc j'ai levé un doigt, le majeur pointé vers le ciel. Marine dans la farine, discrimine la purée mousseline. Affirme être le sosie intime de son père sapé en dracoon. J'ai augmenté la bibine, car j'avais peur qu'on rembobine le film d'une période assassine orchestrée par un être indigne. Ils ont sorti un truc de psy, j'ai pas tout compris. Très vite m'ont tout interdit sans aucune psychologie. Mes écrits comme thérapie, renverser l'ordre établi. Favoriser le whisky pour partager mes insomnies. J'aurais voulu être un artiste comme celui de Starmania. Sa sortie de piste, je la préfère à Claude François. Arrête de gratter tes cailloux et pense à bosser. Je note ça sur un bout de papier et je le remets à jamais. Jamais t'inquiète, je le connais bien, il est là assez souvent. Souvent il remet à demain ce que je pourrais faire maintenant. Bilan de santé, déconnez pas, docteur, vous voyez quoi? Une crise de foie, pourtant j'achète plus de chocolat. Les ambitions que j'avais petit ont disparu avec le temps, sûrement par manque d'envie ou par défaut d'argent. Bercy, je l'ai oublié depuis que je dors plus la nuit. Rêve parti en fumée, conséquence de ma propre vie. Faut réfléchir avant d'agir, ok, mais on est pressé. Donc on agit sans réfléchir afin de bien se planter. J'ai voulu tendre une main, je me suis fait bouffer le bras. C'était l'appât du gain qui les a fait venir vers moi. Prends garde à tous tes biens, tu les reverras pas deux fois. Mon compte en est témoin, surtout à la fin du mois. Et même si je suis crevé, j'ai pas prévu de m'endormir. Si tu te bats à mes côtés, tu vas en chier, je vais pas te mentir. Des nuits carrément blanchies par une feuille buvant mes écrits ne me laissent aucun répit. J'ai pris perpète et sans sursis, mon avenir est entre mes mains. Je peux pas passer à côté, je vois bien qu'il n'y a rien. Je passe mon temps à me laver. Le problème c'est pas l'être humain, mais ce qui l'a créé. Oui, il a réparti ses biens, mais sans jamais les partager. Si mon rap ne sert à rien, j'aurais au moins pu m'exprimer. Vouloir changer loin en vain, on a tout le droit d'espérer. Je suis pas un héros, même si je voudrais sauver le monde. Une pensée pour mes potos qui ont connu des moments sombres. Petit, tu parais cruant, la fumette te va comme un gant. L'effet n'est jamais permanent, tu vas lui devoir de l'argent. Ou fier pas aux apparences, elle m'a fait goûter l'enfer. Quand j'y repense, ça me laisse comme un goût amer. Docteur, comprenez mon mal-être, c'est vos cachetons qui nous rendent fous. Petit, moi je passais par la fenêtre, je voulais pas pourrir dans votre trou. J'ai vu mon passé s'assombrir et mon présent se tamiser. Si t'as misé sur mon avenir, c'est quand même un pari risqué. L'espoir fait vivre, faut pas désespérer. Mais là je suis ivre, cette phrase est donc insensée. On vit dans un système qui fait une crise d'anorexie. Donc cette putain de quenelle, elle veut dire quoi à ton avis? Est-ce une simple querelle? Allez demander à Ellie. Au France tu m'interpelles, j'ai plus confiance en ton pays.
Une émission spéciale réalisée au Centre psychothérapeutique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Peut-être là aussi encore Benjamin Nid, encore une autre trace, voilà, une matière sonore.
Alors là, tout à fait, là pour le coup, donc il y avait plus de sons un peu produits, mais il y a quand même des xylophones qui traînent, qui viennent, qui sont des sources de l'hôpital. Là, c'est un, comment dire, en fait, Franceline a ouvert l'appel de manière assez large. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des gens extérieurs à l'hôpital qui viennent et qui viennent à la fois rencontrer les patients, proposer quelque chose. On est avant tout un collectif artistique avant d'être à l'hôpital. Ouais. Et du coup, voilà, le fait d'accueillir des gens extérieurs, ça fait un peu partie des fondements du Matrice aussi. Donc là, c'est un jeune artiste remarquable qui s'appelle MC Scribe, qui est venu donc poser un texte à l'hôpital. Alors c'était assez assez particulier. Il y avait donc un peu de public qu'on a entendu applaudir à la fin. Donc voilà, c'était vraiment un premier jet live d'un des textes qu'il avait écrit avant, qui n'était pas forcément en lien avec l'hôpital, mais qui n'était pas complètement étranger non plus. Voilà, et que dire. Voilà, ça nous donne.
Peut-être que ça va créer d'autres liens aussi avec d'autres personnes extérieures.
Voilà, et puis
en tout cas, ça donne bien l'envie. On parlait tout à l'heure de l'hôpital qui va à l'extérieur, justement. Et là, on a quand même aussi, outre bien sûr votre présence artistique ici, peut-être d'autres personnes qui petit à petit vont comprendre que là aussi, il se passe quelque chose et qui peuvent aussi participer.
C'est ça, et découvrir des choses. Et d'ailleurs, MC Scribe est resté pendant un moment. Après, on a eu une réunion avec une équipe de psychologues sur la construction du projet, comment on fait justement pour essayer d'inclure des gens qui sont un petit peu loin géographiquement et peut-être un petit peu isolés aussi par les moyens de transport. Voilà, et qui peuvent pas participer au projet, et tout, il y avait une grosse discussion là-dessus, et il était voilà, et du coup il est resté, enfin voilà, il a partagé ces moments-là, et c'est vrai que voilà, c'est, pour nous c'est aussi important que il y ait le côté artistique, mais c'est aussi le côté un petit peu institutionnel, et comment en tant qu'artiste on prend conscience de ça, et peut-être que demain MC Scribe fera des ateliers de rap dans un autre hôpital, je ne sais pas.
Peut-être, Pascal Cabarros, on pourrait évoquer aussi un peu, on vient d'entendre plusieurs extraits musicaux, on a parlé de l'image aussi tout à l'heure, qui avait aussi Benoît Varic, votre compère aussi, qui intervient dans ce terrain-là. Comment ça se traduit pour vous dans les propositions, ou comment le travail autour d'histoire de métamorphose se fait au niveau de l'image également?
Alors, sur ce projet, il y a deux grandes tendances, en fait, là, sur Limoges, en l'occurrence. Il y a une tendance très, je dirais, très image brute, très image concrète, qui consiste essentiellement à faire du portrait de personnes pour vraiment valoriser l'expression, sans rien retoucher, si ce n'est des retouches pour éviter des problématiques de droit à l'image, enfin tout ça. Mais il n'y a pas de traitement, d'image plus que ça. Dans la volonté. Images sont traitées, mais pas dans la volonté de traitement esthétique.
C'est ça. Hein.
Et il y a une deuxième partie qui est plus de l'ordre du symbolique, effectivement. Et là, donc, pour le coup, un peu comme dans les instrus de musique, on retrouve des enregistrements sonores extérieurs, on retrouve des instruments présents ici. Et ben, dans l'image, on retrouve des photos ou des courts extraits vidéo qui sont captés en direct par les participants ou par nous, lors de balades. Enfin, ça se passe très simplement à ce niveau-là, au niveau de la captation, puisqu'on est.
Comment se passe la captation? Avec quels outils?
N'importe quel outil.
N'importe quel outil. Là, c'est aussi très ouvert.
Là, c'est très ouvert. On parlait tout à l'heure de rapport entre l'humain et la technique. Là aussi, ça se rejoint. On peut faire de l'image avec son téléphone portable. Si on en a un, on n'a pas besoin d'avoir des caméras à 4000 euros. À travers cette démarche de simplification de l'outil et de démystification, on parle aussi d'accès à l'œuvre. On n'est pas seulement dans la dissimulation technique. Voilà, donc c'est des prises de photos, c'est des prises d'images qui peuvent être travaillées en direct après ou montées avec les gens.
Du coup, le lien avec la musique va se faire aussi à certains moments donnés, où des musiques vont s'imaginer, où l'image va venir rencontrer, on a entendu des choses tout à l'heure, va venir rencontrer ces espaces-là, on ne sait pas.
Et puis on peut être intéressé à la fois par l'image et le son.
Oui, bien sûr.
On peut ne pas l'être, mais on peut l'être aussi. Et quelquefois les liens, et souvent les liens entre l'image et le son se font même sans qu'on cherche à le faire, quoi. C'est de l'intuitif, tout ça. C'est de l'intuitif, et c'est surtout de l'humain, c'est ce qu'on retrouve dans l'improvisation.
Je pense aussi qu'il y a une volonté de juxtaposer en fait les deux matières et de proposer des formes, des pièces qui soient au final assez ouvertes, de manière à permettre vraiment à l'auditeur de se raconter quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas diriger le regard ou l'écoute de la personne qui lit l'œuvre. Le but du jeu, c'est vraiment qu'elle elle crée des liens et des ponts dans sa lecture et que du coup, on ait des interprétations qui soient vraiment personnelles. Après, au niveau des outils, on utilise là, on a entendu 3 morceaux de hip-hop. Mais ce qui est important, c'est que, enfin, moi, ce qui me nourrit en tant qu'artiste personnellement dans ce collectif, c'est qu'il y a une multitude d'influences. Il y a de la pratique d'improvisation libre, de la pratique de direction gestuelle d'orchestre, que ce soit du sound painting ou d'autres choses. Il y a du travail installatif, il peut y avoir du travail de mécanique, de scénographie.
C'est vraiment le côté le plus disciplinaire au sens le plus large possible.
Voilà, c'est ça tout à fait. Et en essayant toujours d'avoir une intelligence des moyens et de détourner quelque chose, quoi. Comment un micro-ondes peut finalement entraîner, par exemple, une corde ou
un objet. Sur le matériau, qu'est-ce que j'en fais avec quoi, jusqu'où il m'emmène, il y a toute cette interpellation.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, souvent on nous décrit comme collectif d'art numérique. Alors, c'est un thème qui est un peu mode, nouveau. C'est à la mode, ça permet aux gens de comprendre rapidement, en gros, de ce dont il s'agit. Voilà, c'est ça. Mais au final, le fait de composer de manière art numérique les pièces, et notamment dans le lien image et son qui peut se faire via l'ordinateur directement pour créer des choses qui soient vraiment exactes, rapides. Voilà, il y a vraiment une composition numérique à faire. Ça représente à peu près 5% du travail, quoi, à peine. Le reste, c'est vraiment de la débrouille, quoi. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant.
Et débrouille, c'est pas n'importe quoi.
Oui, c'est pas n'importe quoi, mais du coup, dans le phénomène de débrouille, tout le monde a la même intuition. On est égal face à l'intuition. Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc nous, bien sûr, on a une expertise vis-à-vis de l'outil. On peut faire des trucs extrêmement compliqués si on a envie. Mais ce qui nous plaît, c'est de partir de la réflexion des gens, d'associer, d'avoir la première idée, de dire je vais mettre ça ensemble et ça marche, quoi.
Comment réunir des potentialités, même si elles sont différentes, hétérogènes, mais ça peut se rencontrer, ça peut faire ensemble.
Exactement. C'est ce qui est arrivé notamment quand la Freta est venue, donc l'ensemble orchestral de la Freta est venu jouer pour l'inauguration. Et ça a mélangé les musiciens de l'ESAT de la Freta, donc qui est un établissement d'aide par le travail.
Très belle expérience aussi que vous menez et qui est également très importante aussi dans la durée également, parce qu'il y a plus de 10 ans. Enfin, on va fêter les 10 ans, si je ne me trompe pas, cette année.
Cette année, oui.
Donc là aussi, une installation dans le temps. Et ça, c'est très important parce que ça commence à construire des points de repère aussi dans toute cette inventivité. Et puis, toutes ces nouvelles, ça pourrait faire l'objet d'une émission d'ailleurs, les arts numériques aujourd'hui, parce qu'on y met beaucoup de choses dedans.
Ouh là là, oui. C'est un gros conteneur.
Voilà. Mais je pense que c'est aussi intéressant de vous en entendre parler pour sentir aussi que c'est pas n'importe quoi ce qui s'y passe non plus, et qu'il y a des choses importantes, ça se travaille aussi. Ça reste un outil.
Voilà. Hein.
Et peut-être pour poursuivre notre réflexion et mettre un regard aussi, on va retrouver avec plaisir la chronique de Gérard Bonnefond, qui lui aussi, à sa manière, nous fait découvrir au cours de chacune de nos émissions un petit peu l'histoire des pratiques artistiques au sein de l'hôpital.
Au moyen de divers instruments, guitare, flûte, trompette, tambourin, violon, cornemuse, sitar, tympan et bien sûr de la voix. Le docteur Cabanès, dans son ouvrage paru en 1913, Remède d'autrefois, précisait « Il était indispensable de continuer la musique jusqu'à ce que les malades excédés tombassent de lassitude. Dans cet instant, un sommeil délicieux les saisissait et ils en revenaient parfaitement dispos. » Comme pour toute thérapeutique, il est indispensable de trouver, à force d'essais, la bonne composition musicale qui est associée à un environnement coloré afin d'obtenir la guérison. Les musiciens et le public soutiennent psychiquement de 4 à 6 jours là où les personnes en crise, qui se livrent à des gestuels au sol et dans l'espace. Les rechutes à la période estivale demandaient la remise en œuvre de ce traitement musical. Christina Pluart, musicienne, explique « On trouve dès le XIVe siècle dans les sources ecclésiastiques des références écrites au tarantismo, d'où l'on peut conclure que le rite pratiqué sous le nom de tarantella therapeutica par une personne seule ou de danza di trans par des groupes avait déjà à cette époque fait son entrée dans les fêtes religieuses. La tarantelle a pris place dans le répertoire musical savant et populaire. Des compositeurs ont écrit des tarantelles, Chopin, Bizet, Debussy. Et des formations ont révélé cette musique dansante. Tarantule Tarantelle, Gregorio Panaguia, en 1977. La Tarantella de Christina Pluart, en 2009. La tarantelle est dansée lors de fêtes, et les pas et la gestuelle s'apprennent lors de concerts ou de stages. L'élégance du mouvement, la légèreté musicale et un apprentissage aisé font de la tarantelle un facteur de rencontre festive qui est constitutif du lien social. La tarantelle est un traitement inscrit dans un cadre symbolique, agençant des chorégraphies, des musiques et des couleurs, afin de permettre la guérison des victimes du tarantisme. Cette thérapeutique est une réponse sociale et culturelle participative pour traiter de troubles psychiques. Par ailleurs, les musiques dansantes occupent une place sociale importante lors de fêtes et de concerts, renforcent l'appartenance culturelle, produisent une détente physique et psychique. La danse, la musique, les chorégraphies et les gestuels codés ou improvisés ont une fonction symbolique qui joue de surcroît un rôle thérapeutique. Merci et à bientôt.
Nous arrivons au terme de cette émission. Celle-ci a été enregistrée le 16 juin dernier en la salle Molière du Centre psychothérapeutique de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Je remercie vivement Francine Borel et puis le docteur Francis Finiaga pour votre accueil et pour nous avoir facilité l'organisation de cette émission.
Merci à vous.
Merci également au collectif Le Matrice. Et à bientôt. Alors, on suivra attentivement tout ce qui va se passer jusqu'au mois de décembre.
Merci et puis à bientôt.
À bientôt. Et puis merci aussi à l'équipe technique de Résonance Contemporaine, Laurent Cusin à la régie générale, Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité, et que cette journée vous soit douce.